chez Marvel, il y a une série qu'on attend tous depuis très longtemps. C'est-à-dire que même tous les lecteurs de français sont impatients de la lire parce que la première série était finie depuis longtemps. Et là, la deuxième arrive. Cette série, alors elle s'appelait jusqu'ici Young Avengers. Elle va maintenant s'appeler Avengers The Children's Crusade. C'est donc une mini-série en 9 parties cette fois-ci et toujours écrite par Alan Ehrenberg et Jim Chung, les deux auteurs évidemment de la série d'origine. Alors, de quoi est-il question dans cette série ? Eh bien, tout simplement, on va retrouver donc les deux jumeaux de Scarlet Witch avec une évocation de leurs origines dans cette série qui sortira tous les deux mois. Marvel n'a pas décidé de nous le refaire en format mensuel cette fois-ci. En même temps, il savait très bien que la dernière fois, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc cette fois-ci, ils repartent sur un format bimestriel en espérant que ce sera à l'heure. En tout cas, nous, on y sera, parce que c'est vraiment une des meilleures séries Marvel qu'on ait eues dans les années 2000, avec vraiment des personnages très intéressants et qui ont marqué. Et donc, on est très content de revoir l'équipe d'origine sur ce titre. Et donc, eh bien voilà, on va suivre ça avec intérêt. Les deux autres séries que j'ai sélectionnées chez Marvel, paradoxalement, c'est pas du pur Marvel, puisque c'est dans la ligne Icons. Donc Icons, c'était effectivement la ligne des copyright own chez Marvel. Alors, il y a très peu d'auteurs qui ont eu la chance d'y arriver. Le premier, c'était Brian Michael Bendis. La collection a peu été créée pour lui. Il revient dans une nouvelle série qui s'appelle Scarlet, avec au dessin Alex Maleev. Donc ils étaient sur la série Spider-Woman, qui a eu un peu de mal à décoller. Là, on les retrouve sur ce Copyright Own, donc sur une femme qui va être vraiment dans un style plus Punisher. Ça va être effectivement un comics assez rythmé, avec des flingues partout et des nanas pas trop vêtues, on va le dire franchement. Elle est quand même très très sexy, la Scarlet. Voilà, on attendra effectivement avant de se prononcer sur la qualité du scénario, bien évidemment, de l'avoir lu ou d'avoir vu vraiment les premières pages pour se donner une idée. En tout cas, c'est Brian Michael Bendis, et s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas savoir écrire. Donc on est plutôt très confiant sur le sujet. La deuxième série qui revient, elle est une série qu'on a déjà vue. C'est Casanova de Matt Fraction et Gabriel Ba qui revient. Alors c'était chez Image au préalable, dans un format qu'on appelle format à la Fell. C'est-à-dire que ce sont des comics de 16 pages uniquement, qui sortaient pour un prix moindre. Là on revient avec un format 40 pages. Et cette fois-ci, c'est en full color, c'est-à-dire qu'effectivement, la première série était avec une seule couleur. Donc c'était double ton, c'était assez bien vu. Donc sur cet homme détective privé qui bosse pour une agence qui s'appelle, qui bosse contre une agence plutôt, parce que c'est son père qui la tient, qui s'appelle Empire. Voilà. Une vraie série polar quand même sur les bords, et qui a quand même, il faut le reconnaître, son intérêt dans ce cadre. Donc là-dessus, on va voir ça avec un plaisir non dissimulé, parce que c'est quand même une série assez intéressante par rapport à ça. Donc on a trois titres donc à retenir chez Marvel. Il y en avait d'autres, il y a beaucoup d'autres titres. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que beaucoup des titres qu'on va avoir en dehors sont des conséquences de sièges. Donc je peux pas vraiment vous en parler sans dévoiler les secrets de ce qui va se passer en version française pour ceux qui lisent que du français. Mais il y a d'autres séries, mais celle-là, de toute façon, si vous lisez de la VO, vous les avez forcément vus. C'est notamment sur des personnages qui reviennent. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le Marvel, pour cet été, donc, a lancé Heroic Age. Et que vraiment, le but, c'est de revenir à des personnages très positifs. Et là-dessus, ils s'en donnent à cœur joie. Parce que, eh bien, ils ont déjà travaillé pas mal de personnages dans ce cadre. Pour pouvoir faire ce qu'ils en veulent, pour être bien adaptable au cinéma, avoir des héros gentils et positifs. Donc là-dessus, on peut faire confiance à Marvel. Donc on avait commencé par Marvel. On va alterner, donc on va commencer passer à Dark Horse et Image. Puisque chez Dark Horse et Image, il y a 4 titres qui ont retenu mon attention. On va commencer par ceux d'Image. Il y en a deux qu'on connaît très bien. Ils sont tous les deux écrits par le même scénariste. C'est le 8e des 7 créateurs. C'est bien sûr Robert Kirkman, dont les deux titres phares arrivent à leur numéro 75. Donc numéro 75 d'Invincible et numéro 75 de Walking Dead. Deux séries qui sortent évidemment en France chez Delcourt. D'ailleurs, à ce propos, Delcourt vient de lancer un 4e tome, en plus de mettre la série dans son magazine Les Chroniques de Spawn. Donc on vous invite évidemment à vous jeter sur ces deux titres. C'est toujours écrit donc, par Robert Kirkman. C'est Ryan Otley, Curry Walker et Fso Placendia, donc un nouveau qui ancre visiblement Otley, qui vont être sur ce titre. On a également sur la série Walking Dead, donc toujours Charlie Ellar qui est évidemment sur le titre. Donc là, pas de changement, pas de modification. Ce sont deux excellentes séries. C'est peut-être les deux dernières séries qui font que la réputation d'Image a encore ne plus être indépendant subsiste. En tout cas, c'est deux séries qui valent le coup à lire ou à relire, à continuer de lire si vous le faites déjà. Et évidemment, si vous ne connaissez pas, jetez-vous sur les versions françaises. C'est absolument génial. Il y a un autre titre que j'ai sélectionné parce que ça m'a surpris de le voir ici. Puisque c'est pour la première fois la réédition d'une ancienne série qui date d'il y a une dizaine d'années. Et cette série, elle était écrite par Steven Seagal avec des dessins de Kelly Jones. Et elle était sortie chez Vertigo. Et là, elle ressort chez Image. Cette série, c'est The Crusade. Donc là, on a un album de 256 pages pour $30 qui reprend le premier one-shot, The Crusaders Urban Decree et The Crusaders 1 à 9. Alors, bizarrement d'ailleurs, ça s'appelait The Crusaders, même s'il y avait qu'un croisé, et maintenant ça s'appelle The Crusades. Donc, la volume 1 de cette série qui raconte donc l'arrivée d'un croisé du 11e siècle dans les rues de San Francisco de nos jours, avec donc tout le décalage que ça peut représenter. Et donc voilà, c'est un titre à redécouvrir et qui sort donc pour la première fois sous format d'album chez Image Comics. Le dernier titre dont je voulais vous parler, c'est peut-être celui qui va me tenir le plus à cœur dans toute cette revue de presse. Alors, est-ce que ce sera forcément le meilleur ? Non. Mais c'est en tout cas celui qui mérite qu'on y regarde. Parce que il est va passer un peu inaperçu. Ça peut paraître être une vieillerie, mais c'est vraiment une nouvelle série, même si le personnage date des années 60, puisqu'il a été créé en 62. Et d'ailleurs, pour le retour de la série, on a dans cet album la réédition du premier numéro de 1962. Alors, album, c'est un spécial de 48 pages à 3,50, c'est le début d'une nouvelle ongoing sur Dr. Solar, Man of the Atom. Donc Dr. Solar, c'est un personnage au pouvoir cosmique qui est tout puissant. Il y avait eu plusieurs incarnations. La première, effectivement, c'était chez un éditeur qui s'appelait Gold Key dans les années 60. Ensuite, le personnage avait été récupéré par Valiant. Et Valiant était dirigé à l'époque par Jim Valentino. Et Jim Shooter, justement, revient sur le titre, cette fois-ci comme scénariste. Et avec lui, le dessinateur Denis Calero. Donc il relance ce nouveau titre dans une nouvelle réincarnation. La précédente quand même avait fait un peu long feu. Elle avait été créée par Warren Ellis. C'est bizarre, on retombe encore sur lui dans un spécial de toute beauté avec Derek Robertson qui s'appelait tout simplement Man of the Atom et qui avait donné suite à un deuxième one shot par Jim Kruger avec en plus une mini-série en 4 parties qui l'a commencé à un peu sentir mauvais. Qui s'appelait Solar Hell and Earth, qui était probablement un des plus mauvais travaux de la deuxième ère Valiant, mais en tout cas sur le reste c'est vraiment que du plaisir à ce niveau-là à lire. Donc les deux one shots, on vous les conseille si vous arrivez à les trouver parce que c'est un peu difficile de nos jours. Mais là il y a évidemment cette nouvelle série Dr. Solar Man of the Atom à ne pas rater. Je vous le redirai le mois prochain parce que je ne pourrai pas m'en empêcher, même si je vous le dis dès maintenant. Il y a une autre série qui sera relancée chez Dark Horse, c'est Manus Robot Fighter, donc toujours par Jim Shooter. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut absolument lire. C'est impossible de passer à côté. Voilà, donc Dr. Solar, 3,50€, ça commence le 14 juillet aux États-Unis. Alors, on va peut-être attendre le 15 en France parce que, évidemment, les comic shops ne seront pas ouverts. Mais voilà, on lira ça avec plaisir. C'est donc vraiment à ne pas rater. Ah, cette fois-ci, DC Comics avec trois nouveautés. Et trois nouveautés qui sont un peu liées les unes entre elles, parce que elles sont toutes un peu une conséquence de Blackest Night. Donc sans trop vous en dire, dans Blackest Night, il y a effectivement les différentes couleurs dont on en connaît déjà certaines qui s'affrontaient. Et puis à un moment, il a fallu doubler les représentants. On a fait une nouvelle équipe avec des personnages terrestres qui allait incarner les couleurs. Et donc tous ces personnages qui ont incarné des couleurs vont vraisemblablement se retrouver mis en avant par la suite. Alors évidemment il y a des personnages comme Flash qui sont mis en avant parce que effectivement de toute façon il était question de les relancer et le fait qu'ils soient impliqués n'a pas changé grand chose. Il y a un autre personnage dont on ne s'attendait pas à ce qu'il ne soit pas mis en avant, parce qu'il a toujours été, c'est Wonder Woman, mais qui revient cette fois-ci avec un numéro 601. C'en est fini la numérotation du volume 3, série donc qui avait été lancée par Lana Heinberg, dont on parlait tout à l'heure, avec une très grosse déception. Ensuite, il y avait effectivement Judy Picoult qui devait reprendre la série, mais qui n'a rien pu en faire parce qu'en fin de compte, elle s'est fait avoir par les retards de Heinberg. On lui a sucré les deux tiers de son run pour qu'elle n'ait plus qu'à écrire le crossover, les épisodes en crossover avec Amazon Attack, ce qui n'était pas forcément ce qu'elle avait envie de faire. Il y a juste un autre scénariste qui a résumé tout ce qu'elle avait prévu en un seul épisode, ce qui était quand même sûrement très frustrant pour elle. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui écrit bien et on aurait aimé voir ce qu'elle pouvait faire vraiment techniquement sur le titre. Et puis voilà, au final, c'est arrivé dans les mains de Gay Simon, scénariste que j'aborde personnellement. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais désintéressé de ce titre sur la lesbienne sadique, Dixit Frédéric Vertam, Wonder Woman, qui revient donc cette fois-ci avec une numérotation qui ajoute les numéros volumes 1, 2 et 3. Et donc c'est le 601. Alors, oui, je vous ai parlé du 600 le mois dernier et j'en rajoute une couche parce qu'entre temps effectivement on a su qui écrirait et dessinerait la série de Straczynski. C'est donc Don Kramer qui va reprendre la partie graphique. Donc Don Kramer, c'est un dessinateur très honnête qu'on a vu sur notamment des histoires liées à la JSC. C'est quelqu'un avec un style très, très sobre, peut-être moins marquant qu'Aaron Lopresti qui était là avant, mais en tout cas, ça reste quand même un très bon dessinateur. Et donc, on va pouvoir voir la manière dont ils vont revenir en intégrant ces trois séries et l'héritage du personnage, puisque Gail Simone avait voulu la retransformer en guerrière, là on en avait fait une diplomate. On va bien voir la manière dont ça va être géré par Zelensky. En tout cas, on croise les doigts, on espère beaucoup de cette série. Les deux autres séries et personnages qui vont être importants dans l'histoire, ce sont deux personnages différents. L'un est un vilain et l'autre est un héros. On va commencer par le vilain. Il s'appelle Lex Luthor. Lex Luthor avait eu une bague, donc une bague orange pour l'avarice. C'est bizarre, ça colle bien au personnage. C'est un peu pour ça qu'il avait été choisi. Et donc là, Lex Luthor revient à la tête de l'AlexCorp qu'il a récupéré donc des mains de Lana Lang. Et c'est donc dans la série Action Comics qu'on va suivre cette première aventure qui va tourner largement autour de lui. Alors c'était Guggenheim qui avait été annoncé le mois dernier, et en fin de compte Guggenheim a été remercié pour visiblement des divergences d'opinion sur ce qui devait être fait sur le personnage, et il est donc directement remplacé par Paul Cornell, scénariste dont je vous ai déjà parlé ici à propos de la sortie la série Captain Britain and the MI-13, dont je vous avais également dit énormément de bien, et pour cause, elle est excellente. Donc voilà, Captain Britain and the MI-13 était à lire. Je vous invite à aller sur le site Aleph si vous n'avez pas entendu la chronique qu'on avait fait sur le sujet, elle est en ligne. Et donc là, c'est lui qui reprend finalement cet arc. Moi, je suis complètement prêt à suivre le titre du coup. J'hésitais un peu à Guggenheim. Là, quelqu'un qui a écrit parmi les plus grandes histoires de Doctor Who, du Doctor Who moderne, ne peut pas se planter sur un personnage comme Lex Luthor. Donc, je serai là pour voir ce qu'il va faire du titre. L'autre titre qui va nous intéresser, c'est l'histoire de fin d'un titre et un one shot qui vont avec, puisque The Atom était aussi devenu l'un de cette seconde garde de porteurs d'anneaux, et donc là il revient dans une série qui va être par Jeff Lemire, donc scénariste qu'on a vu notamment c'est chez Vertigo sur Sweet Tooth, et Mahmoud Asrar, donc qui lui va être un scénariste que l'on a vu également par ailleurs, puisqu'il travaillait avec Dynamo 5 avec directement le scénariste dont le nom m'échappe et où je vais me taper la tête contre les murs si je ne le retrouve pas. Ça va me revenir avant la fin de l'émission, je vous promets. Je vais vous dire qu'il s'appelle Jay Farber. Voilà, je savais que j'allais le retrouver. C'est insupportable d'avoir un nom comme ça sur le bout de la langue. Donc Jeff Lemire et Mahmoud Asrar vont faire un one shot d'abord de 32 pages qui amène à l'histoire de complément de la série Adventure Comics, qui est donc toujours écrite par Paul Levitz avec Kevin Sharpe au dessin en parlant de la Légion. Et donc là ils vont nous faire les aventures d'Atom, donc on va effectivement pouvoir voir ce qu'il en est par rapport aux suites de ce qu'avait vécu le personnage par ailleurs. À noter aussi qu'Adventure Comics reprend comme Wonder Woman une numérotation complète, parce que là on est arrivé au numéro 516 alors qu'on aurait dû en être au 10 ou 12. Même dès le premier numéro, de toute façon, on avait la double numérotation sur les couvertures avec en arrière-plan la numérotation complète. Là, ça y est, la numérotation complète a repris le devant, c'est officiel. Donc voilà, The Atom Special Brightest Day et l'histoire de complément d'Adventure Comics. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on vous conseille de lire. Là en plus sur DC, autant il y a des fois où il y a des choses que je trouve bonnes mais que j'achète pas forcément directement parce qu'il faut faire des choix. Là sur DC ce mois-ci, pas question que j'en rate une partie. Je prends vraiment les 4 titres dont je vous ai parlé. Cette fois-ci, les indépendants, avec 4 titres que j'ai retenus cette fois-ci. Alors, 4 titres, non, pardon, il n'y en a que 3 d'ailleurs. 3 chez 3 éditeurs différents. Le premier, c'est The Scourge. Alors, pourquoi The Scourge ? Soyons honnêtes, pour les auteurs, cette histoire donc présente l'histoire d'un flic qui va se retrouver dans un New York où la population se transforme au fur et à mesure en monstre. Et là, donc, il y a un numéro 0 qui sort. Alors, c'est une histoire de 12 pages seulement. Mon magazine fait 24 pages et 12 pages d'histoire pour 2,50€. Le problème chez Aspen, puisque c'est Aspen Comics qui le sort, c'est qu'à force de faire des numéros 0 avec des histoires plus courtes qui coûtent plus cher, j'ai un peu l'impression qu'ils ratent tout leur démarrage et que les gens ont du mal à se dire bah, « je vais me lancer dans une série avec un numéro trop cher et trop court ». Voilà. Pourtant, là, ça vaut quand même le coup, puisque c'est Scott Lobdell qui revient. Alors, c'est un scénariste qu'on n'avait pas vu depuis Belle Lurette. Je vous en ai déjà parlé 36 fois. Sa série Jennifer Love Hewitt Music Box est très sympathique. Là, il revient donc chez Aspen, dans un style très différent, avec un dessinateur qui s'appelle Eric Battle. Alors Eric Battle, c'est pas le dessinateur le plus reconnu, il est quand même assez méritant, il est pas mauvais. Il avait notamment fait des Aquaman à une époque qui était écrit par Eric Larsen. Tout le monde s'en rappelle, mais seulement parce qu'Eric Larsen avait été totalement incapable de remplacer Peter David, pardon. Et que derrière lui, on a eu les Dan Jurgens qui étaient vraiment des chefs-d'œuvre sur le personnage d'Aquaman. Donc voilà. Là, en tout cas, The Scourge par Lobdell, Eric Battle, ça peut valoir le coup d'y jeter un coup d'œil. C'est encore une fois, je pense, un titre que l'on aura là, par contre, l'occasion de lire en version française, puisqu'il est quand même fort probable que ce titre sorte chez Delcourt. Ensuite, on va avoir un autre titre, cette fois-ci chez Bongo Comics. Alors, je vous parle très rarement de Bongo Comics, et pour cause, cet éditeur donc fait des histoires exclusivement ou pratiquement sur Futurama et évidemment les Simpsons, donc les deux séries de Matt Groening. Et là, on a donc un nouveau numéro avec un des personnages des Simpsons qui n'avait encore jamais eu sa série. Et en tant que geek, on ne peut que s'intéresser à cet épisode. Il est donc le personnage donc qui va être dedans, c'est le comic book guy, donc le vendeur de comics, celui qui n'a pas de nom. Donc The Comic Book Guy, The Comic Book, The Collector Edition numéro 1, avec une histoire où donc on nous apprend que le comic book guy pourrait devenir le personnage central d'une série qui sera autant remarquable que tous les classiques de la bande dessinée, à savoir Watchmen, Moss, The Dark Knight, Marvel's, X-Men The Dark Phoenix Saga. On a quand même tapé dans le lourd. On a des ambitions pour ce jeune homme. Je ne suis pas sûr que son physique de jeune premier réussisse. Mais en tant que geek, on ne peut de toute façon que s'amuser et se féliciter d'un comic book sur ce personnage. On va forcément reconnaître encore une fois des gens que l'on connaît et trouver ça très drôle. Donc autant ne pas gâcher son plaisir. C'est vrai que moi le premier, j'ai souvent un œil très distrait sur les sorties de Bongo. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, ils ont retenu mon attention. Et donc il y a un troisième titre dont je devais vous parler. Là encore, c'est chez un troisième éditeur dont je parle assez peu souvent, c'est Moonstone. Alors Moonstone, en plus, comme ils annoncent vraiment leur sortie deux mois avant les autres, souvent on les oublie au moment opportun. Et pourtant, il y a quelque chose qui moi m'a marqué. Une série qui s'appelle Honey West. Alors Honey West, vous ne connaissez probablement pas. C'est un personnage des années 60 qui est donc Detective Comics. C'est un peu un mélange entre Mike Hammer et Marilyn Monroe, pardon, puisque c'est la première série télévisée qui avait été faite sur une femme détective. Et donc, il y avait également eu une dizaine de romans qui avaient été faits sur ce personnage, Donnie West. Alors, pourquoi je vous parle de Donnie West ? Pas spécialement pour le personnage, mais vraiment pour le nom des auteurs. Donc Trina Robbins, qui est la scénariste, a fait pas mal de choses au niveau underground, surtout, notamment sur des personnages féminins comme Go Go Girl chez Image Comics. Mais c'est pas Trina Robbins qui m'a marqué, c'est bien Cynthia Martin. Alors Cynthia Martin, c'est une dessinatrice peu prolifique. D'ailleurs, il y a eu un article sur elle dans le dernier Scare, je crois, sur les grands auteurs oubliés des années 80, et elle en faisait partie. Cynthia Martins a révolutionné la série Star Wars de Marvel, et on a eu très peu de ces épisodes en France parce que à l'époque il y avait Bill Sienkiewicz qui était également sur New Mutants. Les deux séries sortaient dans Titan. Et là, chez Lug, à l'époque, ils ont dit « Oula, quand même, Cynthia Martins plus Bill Sienkiewicz, c'est quand même deux très fortes personnalités, c'est très très bon, mais effectivement, on risque de déboussoler pas mal de nos lecteurs. » Ils ont choisi de garder effectivement New Mutants parce que c'était en continuité et c'était probablement beaucoup plus logique. Mais Cynthia Martins est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, avec un trait très efficace, et comme ça faisait effectivement des années et des années qu'on ne l'avait pas vu sur un comic book, je ne pouvais pas ne pas sauter dessus. Là encore, il n'est pas question que ce titre ne soit pas dans ma commande à la fin du mois.